rendez-vous du Mondial du bâtiment, la rénovation énergétique dans les territoires. Une émission animée par Nathalie Croiset.
On ne cesse de le dire, les territoires ont un rôle central à jouer dans la rénovation énergétique. Chaque mois, dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment, nous faisons un focus sur une région pour mieux comprendre la stratégie mise en place et ses impacts. Ce mois-ci, c'est la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec notamment, mais pas seulement, le sujet du confort d'été. Donc, ils sont quatre en visio avec nous. Je vais les laisser chacun se présenter à tour de rôle. Frédéric Corset, bonjour.
Oui, bonjour Nathalie.
Bonjour, directeur d'Envirobat BDM. Quelques mots pour vous présenter.
C'est ça. Voilà, je suis architecte et urbaniste de formation et voilà, je dirige Envirobat BDM depuis une petite année. Et ça fait très longtemps que je travaille chez Envirobat BDM.
Bah, merci à vous. Et donc, vous allez nous éclairer sur cette région, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et alors, un plateau très féminin. Claude Bertolino est avec nous aussi. Bonjour.
Bonjour, je suis la directrice générale de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous sommes un outil qui a été créé il y a une petite vingtaine d'années sur l'ensemble de la région et qui accompagne les collectivités dans notamment le portage foncier de leurs projets. Le foncier étant au cœur de la sobriété foncière et de la transition globalement sur cette sobriété de toutes les attentions en ce moment.
Ben voilà, vous allez nous en donner des exemples concrets dans un instant. Corinne Guintini, bonjour. Alors, je n'entends pas votre son pour le moment. Alors, si je ne vous entends pas, je vais essayer d'avoir Elisabeth Letessier. Elisabeth Letessier, vous êtes avec nous, associée gérante de Letessier Coriol, architecture et urbanisme.
Bonjour, vous m'entendez?
Oui, très bien. Alors, allez-y, okay. Quelques mots pour vous présenter.
Elisabeth Letessier, architecte urbaniste. Je travaille avec Jean-Luc Coriol à Marseille, dans une agence, et on essaye depuis de longues années également d'améliorer notre conception en prenant en compte le développement durable.
Alors, vous allez nous donner un exemple concret, deux exemples même de ce que vous faites, à la fois de la rénovation et puis aussi du neuf, mais qui peut servir d'illustration aussi au sujet de rénovation dont on parle. Alors, est-ce qu'on a retrouvé Corinne Guintini au niveau du son? Je ne vous entends toujours pas, Corinne Guintini, donc, qui est directrice de l'aménagement et du développement durable de la communauté de communes Vallée des Baux Alpilles. On va tenter de vous retrouver. On a un petit peu de temps puisqu'on va commencer avec les autres intervenants. Et donc Frédéric Corset qui est avec nous. Vous allez d'abord peut-être expliquer aussi, c'est toujours bien de rappeler un peu les grands enjeux, en particulier de la région, bon, sachant que c'est une région aussi où les logements représentent 78% des surfaces pour 70% des consommations énergétiques, et il y a une part aussi non négligeable de tertiaire.
Oui, tout à fait. Je voulais effectivement replacer, alors peut-être pas plutôt avec des chiffres nationaux et non pas régionaux, mais l'importance de la rénovation dans nos sujets. Voilà quelques chiffres que tout le monde connaît, mais qu'il est toujours bon de rappeler quand même, et qui expliquent pourquoi la rénovation est aujourd'hui un sujet majeur. C'est que 60% de notre bâti aujourd'hui, il date d'avant 75, donc avant la première réglementation thermique. C'est le bâti, c'est aussi, on le dit tous les jours, c'est 43% de l'énergie finale de nos consommations. Aujourd'hui, on compte en France, en tout cas, 4,8 millions de logements qui sont classés dans en étiquette F et G de DPE. Et donc, si on veut atteindre nos objectifs de réduction par 4 des émissions de gaz à effet de serre en 2050, on ne pourra pas utiliser le bâtiment neuf pour substituer en 30 ans. Tout le bâti existant qui existe jusqu'à présent. Donc, il faut absolument rénover aujourd'hui nos constructions existantes. C'est vrai en PACA, c'est vrai à l'échelle nationale, c'est vrai à l'échelle mondiale. Il n'y a pas d'autre solution, quoi.
Surtout que vous avez la moitié du parc de logements qui a été construit avant 1975, à peu près, c'est ça. Donc, il y a quand même des gros travaux à réaliser, hein.
Voilà, c'est ça. Et on pourra parler le substitut par du neuf. L'objectif national, c'est environ 500 logements réhabilités par an. On en est, je pense, très, très loin. Voilà. Par contre, ça fait un peu peur si on annonce ces chiffres. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que quand il y a comme ça des crises, c'est aussi des opportunités qui s'offrent à nous. C'est une manière, en tout cas, de réduire la précarité énergétique des foyers. Il y en a 3,4 millions ici en France. En PACA, c'est encore plus accentué. Là, nous, on bureaux sont dans le 3e arrondissement de Marseille, qui est l'un des quartiers les plus pauvres d'Europe. Et la précarité énergétique est ici encore plus forte qu'ailleurs, non pas que, mais pour d'autres raisons, dont on parlera après sur les questions de confort d'été, voilà, et de consommation estivale. C'est aussi une opportunité ici de réduire les logements indécents et insalubres. Voilà, ce n'est pas que des questions, des questions énergétiques. Et Dieu sait si le bâti existant est en mauvais état. Hier, on tenait nous un enviroforum sur le sujet. Et ce n'est pas spécifique aux grandes villes, c'est aussi très très vrai dans les petites et moyennes villes. Et c'est surtout une manière, parce que de s'intéresser aux questions de confort, tous les conforts dans le bâtiment, parce qu'en rénovant, bah voilà, du coup, on peut s'intéresser à d'autres sujets. En particulier, on le verra après, je pense, aux questions de confort d'été.
Oui. Voilà. Et non, mais on va avoir des exemples aussi très concrets, et vous allez prouver ça, aussi que vous êtes une région très engagée sur la question de l'innovation.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et du coup, mais du coup, moi, ce qui est important, c'est comment on peut faire pour ces questions de rénovation. Et moi, je voulais juste passer quelques messages, dire que c'est très important d'avoir une vision globale. La rénovation, coup par coup, elle est certes importante, parce que le particulier, il peut avoir du mal à rénover entièrement son logement, surtout dans des copros. Mais il faut toujours avoir une vision globale de ce qu'on fait. Toujours s'intéresser d'abord à la performance de l'enveloppe, d'abord de réduire nos consommations d'énergie, de manière passive, on va dire, et puis simplement, dans un second temps, s'intéresser à la performance des systèmes. Voilà. Une chose, et seulement ensuite, y mettre des énergies renouvelables, une chose qui est très peu faite, malheureusement, dans le bâti ancien. Et puis, surtout, nous, ce qu'on voit, qui est vraiment essentiel, c'est que ces rénovations, elles doivent surtout s'intéresser à la question des usages. C'est vraiment très, très, très important, parce qu'on voit trop de, comme dans le neuf d'ailleurs, de rénovations qui ne prennent pas en compte concrètement, ou en tout cas assez finement, les usages du bâtiment. On a mené, il y a l'an passé, une étude avec Enertech et une sociologue portée par l'ADREAL et l'ANA sur l'impact que pouvaient avoir les rénovations énergétiques sur les questions de confort d'été. Et ce qu'il en ressort, c'est vraiment très, très clairement une méconnaissance des usages des logements et à la fois un impact très, très fort que ces rénovations peuvent avoir sur un inconfort en période estivale.
Alors, on va y arriver au sujet de confort d'été tout à l'heure, et je vous ferai aussi commenter à nouveau. Mais je vais passer la parole à Claude Bertolino, qui est opérateur foncier pour le compte des collectivités à travers l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous l'avez dit, vos enjeux, alors vous avez fait beaucoup de neuf, mais aussi de la réhabilitation. Vous tendez vers la sobriété foncière. On parlait finalement de bâtiments aussi très dégradés. Les copropriétés dégradées, on va dire, c'est l'un de vos axes.
Oui, les copropriétés dégradées et habitat indigne, il n'aura échappé à personne qu'avec le drame de la rue d'Aubagne le 5 novembre 2018. Et donc, nous sommes sur la déclaration d'utilité publique de la rue d'Aubagne. Nous sommes sur une copropriété dégradée d'intérêt de priorité nationale sur Maison Blanche à Marseille aussi. Et nous intervenons sur une opération d'ensemble de recyclage foncier dans le cadre du projet partenarial d'aménagement qui est dans le 3e arrondissement, qui s'appelle Auch-Versailles, avec effectivement, là aussi, une déclaration d'utilité publique, parce que quand on est sur ce niveau d'indignité, entre guillemets, d'indécence et de difficulté, bien que parfois il puisse y avoir une dimension patrimoniale, nous sommes plutôt sur du recyclage foncier pour permettre effectivement cette transformation de morceaux de ville et dans une approche un petit peu global et effectivement avec toutes les difficultés qu'on peut rencontrer sur les pathologies de bâtiments et alors très clairement sur la rue d'Aubagne, l'idée c'est que le projet n'est pas connu, donc nous sommes sur des sujets de réserve foncière. Sur Auch-Versailles, on s'oriente clairement sur une déconstruction partielle. Donc ça c'est sur le sujet copropriété habitat indigne. Après effectivement, comme vous l'avez dit, nous, on représente 10 à 12% de la construction neuve de logements par nos cessions tous les ans et 15 à 18% des agréments de logements sociaux. On, on, On a vu depuis 2015 nos métiers un petit peu changer, aller sur ce qu'on appelle de l'acquisition-amélioration. Je pense à une opération sur la commune de Hyères.
Oui.
En fait, il y avait de la monopropriété vacante, un propriétaire basé au Luxembourg. Et en fait, les résidences étaient vraiment dans le centre de la ville d'Hyères. Hein. Et donc, l'idée, ça a été de faire muter ce programme pour réaliser du logement social et du logement non social, avec une opération d'acquisition-amélioration, c'est-à-dire transformation, restructuration, au sens de la rénovation énergétique, évidemment, en gardant un bâtiment et en démolissant d'autres et en ayant de la construction légère par ailleurs, et vraiment en faisant refonctionner le quartier avec des circulations. Et donc, on voit bien qu'à travers des opérations d'ensemble, nous pouvons, entre guillemets, à la fois faire de la rénovation énergétique, de la transformation, vraiment au sens grosse rénovation lourde, et puis aussi de la construction neuve. Nous avons aussi sur Toulon une opération qui me paraissait importante d'évoquer avec vous. Alors, je ne sais pas si les visuels pourront passer. Normalement, vous les avez reçus.
Oui, oui, normalement. Nous avons des visuels, tout à fait, voilà, qui sont diffusés.
Voilà, le sujet de la chapelle.
Oui, donc, nous sommes c'est une chapelle devenue médiathèque, c'est ça ?
Exactement. Donc, c'est une opération emblématique et je pense que Frédéric Corset, au titre de BDM, mais aussi quartier durable méditerranéen, peut évoquer comment ces opérations d'ensemble ont bénéficié des labels BDM et pour certains QDM. Et en l'occurrence, là, c'est une rencontre entre le maire de Toulon et le responsable religieux. Et l'idée étant de dire comment cette chapelle, finalement, dans un projet d'ensemble, va pouvoir muter, être conservée et devenir, entre guillemets, pour partie la médiathèque, une salle d'exposition, et avec un projet qui fait à la fois du logement social, une école de commerce, et donc vraiment une ambition en entrée de ville, avec la restructuration du parc, parce qu'effectivement, on parle de rénovation énergétique, mais il faut aussi, dans ces opérations d'ensemble, prévoir les espaces naturels, végétaux extérieurs, et j'invite tout le monde à aller voir cette opération qui est une superbe opération. Elle a été saluée au niveau national, notamment par la ministre Emmanuelle Wargon, le 8 février, et donc nous sommes très contents.
Alors j'ai une question de néophyte quand même, parce que si une chapelle, j'imagine il y a peut-être, c'est une question de patrimoine, on peut pas toucher à tout, il y a dû avoir plusieurs problématiques aussi autour de cette réhabilitation et de ces travaux.
L'enveloppe a été conservée en grande partie, la rénovation a consisté à restructurer quand même le bâti qui était fragilisé, d'un point de vue juridique à désacraliser la chapelle, parce qu'il fallait plus qu'elle soit chapelle pour être médiathèque, ça paraît bête, mais derrière, il y a effectivement toujours un petit peu de logistique pour que les choses aillent de soi, mais ne sont pas si intuitives. Et donc, effectivement, il y a eu un travail, évidemment, avec l'architecte des bâtiments de France, notamment sur, y compris le projet, on démolissait de la totalité des bâtiments à l'arrière, à côté de la chapelle ou pas. Et donc, le choix qui a été fait, c'est d'en démolir que la moitié avec l'architecte du bâtiment de France, de conserver la porte d'entrée dans le parc et dans l'opération, sur la chapelle, de retrouver effectivement des fresques qui sont notamment au cœur de l'ancienne chapelle et qui maintenant sont visibles et accessibles par tous aussi. Et ça fait partie d'un équipement public désacralisé.
Alors, avant de repasser la parole, oui, vous avez un autre exemple à nous donner, c'est dans les Alpes-Maritimes, c'est ça, voilà, la colle sur loup.
La colle sur loup, ce que je trouvais intéressant, c'était comment faire de la rénovation énergétique dans un patrimoine 20e. Donc là, nous sommes sur une résidence de vacances, et donc l'idée, c'est que là, on puisse à la fois intervenir aussi en déconstruction de certains bâtiments, parce que c'est plusieurs bâtiments identiques, qui varient de la pierre, du béton, et qui sont assez révélateurs de cette architecture patrimoine 20e. Et comment là, c'est le plan de relance avec le fonds Friche, qui quand même, sur la région, a bénéficié d'un abondement qui, au total, ça représente quasi 20 millions sur cette année. Et puis, une deuxième édition va être engagée avant le 15 juillet, c'est tombé la semaine dernière, par l'ensemble des services de l'État en France. Et comment cette opération va pouvoir bénéficier du fonds Friche pour justement à la fois faire de la rénovation d'un patrimoine d'entièmes pour le transformer en logement locatif social sur une résidence de vacances, sur une commune déficitaire et carencée en logement locatif social. Et puis, comment on va faire du réemploi sur la déconstruction pour pouvoir effectivement être au mieux par rapport à l'efficacité énergétique et à la sobriété globale et attendue par tous.
Alors, c'est trois très bons exemples que vous donnez. Peut-être Frédéric Corset voulait commenter ces exemples et puis glisser un mot, en ajouter un nouveau sur le sujet du confort d'été, puisqu'on va avoir des exemples concrets avec nos deux autres intervenantes.
J'avais plein de choses à dire, mais juste pour rebondir.
En deux minutes.
En deux minutes, oh là là là. Juste pour dire, c'est quand même ce que, par rapport à Claude, c'est qu'elle parle des projets qui sont à venir, mais elle ne parle pas de toute l'implication de l'EPF PACA sur déjà des plus petites communes comme à Mannes, comme à Sisteron, comme à Fort-Calquier, où là aussi l'EPF est intervenu sur des sujets pour rénover, faire dans des patients de RHI. De manière à avoir des constructions et des projets intelligents à chaque fois avec de l'accession, du logement social, des commerces, parfois même des ateliers, en curtant les îlots, en ajoutant du végétal et en faisant à chaque fois un projet intelligent. Et pour faire un projet intelligent et global et avoir cette vision globale, le nœud de la guerre, c'est vraiment foncier, c'est de maîtriser ça. Et dans le bâti ancien, c'est très, très, très difficile. On peut avoir plus sur une toute petite parcelle de plusieurs centaines de mètres carrés, on peut avoir jusqu'à 20, 30 unités à maîtriser, 30 propriétaires différents à maîtriser. Donc, c'est très, très complexe, voilà, et très long.
Alors, un mot du confort d'été. Oui. D'été.
Voilà, juste quelques mots pour dire que voilà, depuis les années 70, il y a eu de nombreuses RT et qu'aujourd'hui, en fait, on a fait d'énormes progrès sur les questions d'économie d'énergie, sur les consommations hivernales, et qu'aujourd'hui, ces économies d'énergie sont menacées par nos consommations estivales. Ici, quand en PACA, on dimensionne un réseau de chaleur, c'est les dimensionnements des consommations d'été qui, en fait, dimensionnent le réseau de chaleur. Ce n'est pas les consommations d'hiver. Et selon l'Agence internationale de l'énergie, si on ne fait rien, en fait, aujourd'hui, les consommations de clim, c'est environ 8%, 9% des consommations totales d'énergie. Voilà, ça sera 37% en 2050 si on ne fait rien. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, les appareils aujourd'hui qu'on utilise pour climatiser, ce sont des appareils très consommateurs d'énergie. C'est 40-50 fois les consommations d'un frigo, donc qui n'est déjà pas le plus petit appareil qui consomme dans un logement. Et puis surtout, c'est que les fluides caloporteurs qu'on utilise dans une climatisation sont un pouvoir de réchauffement calorique qui est souvent 600 à 2000 fois plus élevé que le CO2. Et dans une clim, il y a toujours des fuites et c'est cet élément-là qui est vraiment très, très impactant pour l'environnement. Voilà. Et le troisième point, c'est de dire aussi que les questions de confort d'été dans nos bâtiments, quand on climatise, eh ben derrière, en fait, on rejette des calories dans l'espace public. Donc, en fait, et ça renchérit les questions d'îlots de chaleur urbain qu'on connaît, que vous venez de citer dans le Canada, au Canada.
Les dômes de chaleur.
Les dômes de chaleur, là, il y a quelques jours. Et donc, les climatisations, quand on rafraîchit dedans, on réchauffe l'extérieur. Voilà, on rejette les calories extérieures. Alors, il y a des solutions qui existent, des solutions passives. Elisabeth en parlera bien. Je pense que les approches qu'on doit faire pour avoir des solutions passives, donc qui ne vont pas chercher des systèmes et de l'énergie, c'est d'abord de travailler le bioclimatisme des constructions, c'est-à-dire à la fois de se protéger donc du soleil l'été, voilà, pour essayer de, voilà, avec des casquettes, des brise-soleil, il y a mille manières de faire, qui peuvent être aussi des éléments d'architecture importants. D'utiliser aussi le végétal, c'est quelque chose d'important, qui permet d'utiliser aussi la ventilation, l'aération des logements, en créant des courants d'air, des logements traversants, c'est pas si simple que ça. D'utiliser parfois, quand on peut, c'est plus rare, mais dans la rénovation, c'est quelque chose qu'il faut absolument conserver, c'est les questions d'inertie du logement, la matière qui stocke du froid et qui décale en fait la période de chaud de la journée qui devient la nuit, et la nuit on peut rafraîchir le logement très rapidement. Et quand on a fait tout ça, et bien seulement là, on peut utiliser peut-être des énergies renouvelables pour mettre des systèmes un peu plus actifs, parce que parfois, on n'y arrive pas sans clim. C'est le cas dans les centres de santé, les maisons de santé, ou bah, parfois dans les lieux médicaux, ou dans les maisons de retraite, ou dans les EHPAD, où là, on peut avoir besoin, malgré tout, bien que, voilà, de rafraîchir. Et là, peut-être, c'est les énergies renouvelables qui peuvent le faire, mais seulement quand on a fait tout ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire d'avoir un blackinement qui se protège le plus des surchauffes d'été pour réduire les consommations d'énergie estivale.
Alors, on va voir ça concrètement avec un exemple. Vous parliez d'Elisabeth Tessier, donc je vais lui passer la parole. Un premier exemple, vous avez peut-être plus développé, et l'autre y faire aussi une allusion. C'est donc l'IMERA, l'Institut d'études avancées à Saint-Tulle-Manosque, où là, c'est deux bâtiments qui ont été restructurés. Une maison du 19e siècle, c'est ça, et une construction des années 60.
En fait, non, c'est à Marseille.
C'est à Marseille, d'accord. J'avais pas la bonne adresse.
Voilà. Donc l'IMERA, parce qu'en fait, voilà, moi, ce que je veux un petit peu dire, c'est que à chaque fois qu'on commence un travail sur un projet ou sur une opération, il faut quand même toujours se réinterroger, réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire construire ou rénover durable? On sait que rénover durable, c'est un travail collectif, c'est un travail qui fait appel à pas mal de compétences, évidemment, et notamment qui initie aussi à un moment donné des calculs de facteurs lumière-jour, simulation thermodynamique, toutes sortes de calculs qui sont très intéressants et qui nous permettent après de mieux voir comment on modifie le projet éventuellement, puisque ce travail-là est fait en amont. Mais avant tout, il faut quand même parler de l'architecte, de l'architecture, parce que pour moi, et je pense que je ne suis pas du tout la seule à le penser, certainement les architectes auront un peu ce point de vue, j'espère, c'est qu'avant tout, c'est comment on s'inscrit sur le site, quelle démarche on a par rapport au génie du lieu, comment est-ce qu'on prend en compte le potentiel bâti ou existant ou végétal qui existe sur le site pour essayer de construire une architecture justement passive, bioclimatique, ce qu'expliquait justement tout de suite Frédéric Corset, où en fait, on n'est pas obligé. On arrive après à ne pas utiliser trop de systèmes lourds et qui eux-mêmes émettent des ondes négatives, on dira, par rapport à la durabilité. Bon.
Alors, est-ce que vous pouvez expliquer concrètement, parce que je vois qu'il y a un quart d'heure devant nous et que j'ai encore aussi Corinne Guintini qu'on a réussi à joindre. Okay. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire à chaque fois sur ce sujet, puisque vous donnez des exemples concrets. Allez-y, expliquez-nous ce que vous avez mis en place concrètement.
L'exemple dont je voulais parler, c'était l'Institut méditerranéen de recherche avancée situé en plein centre-ville, en haut de la Canebière à Marseille. C'est l'ancien site donc du laboratoire astronomique. C'est près du Palais Longchamp. Donc c'est pour du logement, et des locaux pour des chercheurs de haut niveau. Et c'est une rénovation. Donc le bâtiment 19e, complètement rénové en prenant en compte justement réhabilité, en prenant en compte la valeur d'usage. Mais là, autrefois, il n'y a pas de problème de surchauffe, parce que le bâtiment a une épaisseur de mur, une inertie, donc on n'a presque rien eu à faire, pas de très grandes ouvertures. Donc voilà, bon, là, j'en parle pas. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'était le bâtiment 19e. Donc le premier bâtiment 19e, pardon, était construit par Espérant Dieu à l'époque. Et le deuxième bâtiment, c'est un petit bâtiment des années 60 à R+1, construit par Nicolas Margaritis, et qui était très structuré, très rationnel, donc assez intéressant, mais une vraie passoire thermique. Aucune isolation. Donc voilà. Donc le travail de rénovation, cette fois-là, a consisté à prendre tous les outils auxquels l'architecte peut faire appel pour déjà, de manière passive, améliorer la qualité du bâtiment. Donc je reprends les thèmes sur ce bâtiment dont parlait Frédéric Corset, c'est-à-dire travailler sur la peau de l'édifice, c'est-à-dire qu'on a traité, re-isolé par l'extérieur, en l'occurrence en mettant un bardage bois, parce qu'on est dans un parc. Donc à Marseille, en point haut, dans un parc, c'était intéressant de reprendre un matériau biosourcé qui a été pré-grisé, puisqu'on est dans le sud et près de la mer, il faut quand même protéger le bois qui ne répond pas à tout. On n'est pas à la montagne. Donc ce pré-grisement a permis que le bâtiment n'a pas bougé. La couleur initiée par du Protex Overtrol, ça s'appelle, c'est un saturateur à l'eau qui permet de donner une couleur de pré-grisement qui reste à l'identique maintenant depuis 3 ou 4 ans qu'on a réalisé ce bâtiment. Donc la peau. Ensuite, on a créé une double peau thermique aussi en façade sud. Donc l'orientation du bâtiment était nord-sud, c'était quand même assez intéressant. On a créé des logements pour les chercheurs traversants, donc dans ce cas-là, ventilation naturelle. Et donc en plein façade sud, cette double peau thermique qu'on a mis a permis de créer des loggias avec des prolongements extérieurs, donc pour les logements de qualité de vie pour les utilisateurs, mais également protection solaire largement conséquente puisque ces loggias étaient très profondes. Donc c'est rien que de très classique ce dont je vous parle maintenant, mais qui finalement permet de donner une qualité de vie sans déjà avoir fait recours à des systèmes un peu plus sophistiqué.
C'est oui, c'est ce que passif. Vous avez envie de dire. On n'est pas là tout le temps à faire de la techno ou du high-tech. On peut faire des choses très efficaces aussi.
On essaye même dans le sud, donc on est à Marseille. même le bois, on a pu l'utiliser dans une région dans une zone très urbaine à proximité de la mer. On a mis du Douglas, donc je vous dis pré-grisé, qui est en vieillissement, en oxydation. À l'usage du temps, on n'a pas bougé pour l'instant. Il y avait des casquettes, donc il faut bien étudier comment était constitué le bâtiment existant, essayer de voir ce qu'il a à dire, qu'est-ce que nous raconte l'environnement. On a beaucoup d'arbres aussi dans le secteur où on était. Donc en fait, l'environnement nous dit, on utilise du bois, on isole par l'extérieur, on crée des loggias confortables qui permettent en même temps de faire la protection solaire. Et on a aussi d'ailleurs végétalisé la toiture pour un petit peu améliorer justement la thermique et la... toujours la chaleur quoi, pour éviter que le bâtiment soit en surchauffe. C'est vrai qu'il était en béton, donc on a quand même une bonne inertie malgré tout aussi, c'est très important. Et voilà, je voulais parler déjà avec des systèmes simples, une réflexion, et c'est pour ça que je voudrais quand même défendre la position de l'architecte et toujours finalement en amont sur tous ces dossiers. Il travaille avec les autres, mais c'est quand même lui qui fait des propositions passive. C'est après, en travaillant avec des ingénieurs fluides qui ont bien l'habitude aussi de valoriser ce type de prestations, on peut obtenir un bâtiment confortable, pérenne et qui ne fait pas appel à des systèmes ni à des consommations énormes de chauffage, par exemple, dans le sens ou de climatisation, puisqu'à l'INERA, on n'a pas mis de climatisation. Ils ont des brasseurs d'air. Vous voyez ce que je veux dire ? On est comme obligé, quand il fait 40 degrés, 50 degrés à dehors, avec votre clim, vous allez faire exploser la planète. Oui. Sans clim, vous allez avoir chaud quand même. Ça, c'est sûr. Mais le brasseur d'air permet de vous donner un confort ressenti. C'est intéressant.
Alors, il y a un autre mot dont vous allez glisser, on va dire, en deux minutes. Vous voyez, je vous donne une contrainte de temps. C'est l'éco-campus Provence, parce qu'il peut donner aussi quelques idées, pourquoi pas, pour la rénovation, puisqu'on va axer uniquement sur le confort d'été. Mais il y a des puits thermiques méditerranéens, c'est ça aussi dont vous vous servez, une ventilation naturelle. Donc ça aussi, c'est un exemple qui peut servir.
Qui peut être réutilisé en rénovation pour de l'habitat. Donc en fait c'est l'éco-campus Provence réalisé avec R+4 architecte à Fort-Calquier. Cet éco-campus Provence se situe à Sainte-Tulle et donc pour faire vite, on a fait appel mais en construction neuve finalement au même principe que ceux que je viens de vous citer sur la réhabilitation et l'enveloppe du bâtiment pour les logements de l'IMERA. Et donc notamment ce qui est intéressant à signaler, c'est qu'on a toute une circulation avec des circulations et des grands patios qui font espace tampon par rapport aux salles de classe, puisque là c'est un centre de formation. Ces circulations sont traitées comme des espaces tampons interclimatiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas chauffés et qui donc font bien l'interface entre l'extérieur et l'intérieur. Et dans ces grands patios couverts par des verrières photovoltaïques qui sont ventilées, on a créé à partir des peignes qui sont créées sur la rue principale nord-sud, on a des peignes est-ouest, enfin des peignes qui sont greffés sur une circulation principale qui permettent aussi d'avoir des bâtiments traversants pour faire la ventilation naturelle. Et dans les patios, on a pu insérer grâce à ça des puits, je dirais, méditerranéens qui prennent la fraîcheur par le sol à partir des jardins intermédiaires, des jardins intermédiaires entre chaque bâtiment qui passe sous terre et qui est reprojeté cet air frais en été, si on peut dire, frais en été. Parce que dans la terre, tout est à la même température. Donc, quand ça passe dans la terre, c'est le principe du puits canadien qu'on peut retranscrire en puits méditerranéen. On garde la chaleur de la température de la terre qui est toujours plus au même niveau, qui se reprojette à travers des bancs béton ventilés un peu. On voudrait que ce soit un peu surventilé par rapport à ce qu'on a fait, mais ventilés qui viennent recracher de l'air frais finalement. Qui va rafraîchir ce grand patio photovoltaïque qui lui-même est ventilé par le haut. Enfin, et l'air chaud donc ressort par des fenêtres, enfin des ouvertures qui se trouvent dans les verrières hautes. Voilà, alors, c'est un peu rapide.
Non, mais merci pour cette illustration. On en donne beaucoup d'exemples hein, dans cette séquence rénovation énergétique dans les territoires. Donc, évidemment, il faut que ça rentre dans le temps. Corinne Gattini, je crois qu'on vous a par téléphone, parce que malheureusement, vous aviez un petit souci de connexion. Vous êtes avec nous hein?
Oui, tout à fait.
Oui.
Vous m'entendez, bonjour.
Oui, je vous entends. Directrice de l'aménagement et du développement durable de la communauté de communes hein, Vallée des Beaux-Alpilles. Donc, pour votre siège, hein, nouveau siège, mais en fait, c'est une réhabilitation portant sur un bâtiment existant, reconnu BDM Or. Alors, quelques mots pour présenter ce projet qui s'inscrit hein, globalement dans une démarche territoire à énergie positive pour la croissance verte. Hein.
Tout à fait. Donc, en fait, j'aurais souhaité aussi dire deux petits mots sur la communauté de communes pour nous situer.
Parce Bien que sûr.
La toute petite dernière communauté de communes des Bouches-du-Rhône. Donc, on est à l'ouest des Bouches-du-Rhône, sur le pays d'Arles, en fait. Nous comptons 10 communes pour 28 000 habitants, donc avec une densité qui est très faible hein, par rapport au restant des Bouches-du-Rhône. 87 habitants au kilomètre carré par rapport à plus de 300 sur le restant du département. Un territoire très touristique avec une forte attractivité du fait essentiellement du qualité de ses paysages et de son art de vivre. Et la communauté de communes emporte beaucoup de compétences aujourd'hui, de politiques publiques importantes, notamment depuis 4 ou 5 ans, puisqu'on a tout ce qui est développement durable et transition énergétique, la gestion des déchets, l'économie avec la création des zones d'activité, mais aussi la gestion et la promotion économique, le tourisme, tout ce qui concerne l'eau, l'assainissement, etc. Et effectivement, on est très engagé dans la transition écologique. C'est une volonté forte de nos élus depuis plusieurs années. Et on s'inscrit dans le plan climat, air, énergie territoriale du pays d'Arles. Et effectivement, le projet du siège communautaire, du nouveau siège communautaire, fait partie d'une action phare, on va dire, de notre territoire. On a voulu un bâtiment exemplaire.
Oui.
Pour ce nouveau projet qui avait pour objectif principal de réunir déjà l'ensemble du personnel de la communauté de communes qui jusqu'à présent était un peu éclaté sur le territoire. Et on a souhaité se mettre sur une zone d'activité que l'on gère, et donc que l'on promeut, et pouvoir réhabiliter un bâtiment existant. Donc déjà, c'est se mettre sur une zone qui est déjà artificialisée et pouvoir réutiliser du bâti existant. Comme vous le disiez, effectivement, on s'est inscrit dans le cadre de l'appel à projet territoire à énergie positive pour la croissance verte. Donc, on a signé en 2016 une convention avec le ministère de l'écologie. On est inscrit, comme je le disais, dans le plan climat du pays d'Arles. Et puis, ce projet répond aussi aux objectifs de la COP d'avance de la région sud.
Alors, avec des objectifs de réduction de consommation d'énergie, évidemment, de développement de l'économie circulaire, de la question de la valorisation aussi des énergies renouvelables hein, dont on parlait et qui est aussi dans tous les enjeux de votre bâtiment. Alors, au-delà du bâtiment, finalement, l'idée aussi, c'est de développer une filière. Je sais que vous êtes allé chercher de la balle de riz, notamment, hein, c'est ça, dans la construction hein.
Oui, tout à fait. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'essayer d'utiliser au maximum les matériaux biosourcés, puisque c'est une manière, effectivement, de réduire les émissions au niveau du bâtiment, et qu'on sait que ça fait partie quand même dans la stratégie nationale aussi de la loi TEPCV. Donc, on souhaitait pouvoir travailler sur des filières locales, d'une part pour utiliser des matériaux qui soient à proximité, hein, parce que si c'est pour avoir un transport important, on n'est pas très gagnant sur les émissions de CO2, et puis pour apporter aussi une réponse au territoire en se basant sur ses atouts. Donc, notamment, on est très proche de la Camargue. Donc, comme vous le savez, il y a beaucoup de riziculture dans ce secteur. Et la balle de riz constitue en fait un déchet. Hein, c'est l'enveloppe, si vous voulez, du grain de riz. Donc, aujourd'hui, c'est un déchet agricole. Donc, il est souvent éliminé, soit incinéré, soit... Bon, donc, c'est pas très pertinent ni très écologique. Et donc, cette filière, comme la paille de riz également, ou alors le pain d'Alepe sur le massif des Alpilles, permet en fait à des propriétaires ou à des agriculteurs de pouvoir aussi avoir des compléments de revenus. Donc, ça permet le maintien d'une activité agricole qui a tout son rôle et tout son sens sur le territoire, parce que en lien sur les caractéristiques du territoire, de pouvoir maintenir de l'emploi et en même temps d'avoir un geste écologique fort sur notre bâtiment.
Mmh. Et avec des vrais enjeux, vous vous inscrivez aussi dans...
Voilà, ça permet de relier les enjeux écologiques et économiques et touristiques aussi.
Oui, voilà. Puis vous parliez quand même des Alpilles aussi. Hein. Vous vous inscrivez évidemment dans une nature qui est magnifique. Et là, c'est vraiment ce lien-là aussi, il est fort hein, quand on par rapport aux enjeux de bâtiment. Hein.
Tout à fait. On a un territoire, on a la chance. Enfin, moi, je dis, on a la chance extraordinaire d'être dans un territoire qui est magnifique, avec des paysages qui ne sont pas... Il y a des paysages naturels, mais des paysages aussi qui ont été formatés par l'homme, et ça, c'est important, notamment les paysages agricoles, les olivorés, la viticulture. Donc ça, c'est comment on le maintient et comment on fait que ce territoire puisse continuer à s'appuyer sur ses activités, maintenir de l'emploi, parce qu'il faut que ce soit un territoire vivant aussi, où on accueille des habitants et où on ait un cadre de vie qui soit agréable. Donc effectivement, ces filières permettent de dynamiser tout cela en ce sens. Et puis le projet s'inscrit aussi, comme je le disais, dans une zone d'activité. Cette zone d'activité, on la souhaite vouée à l'éco-construction. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu porter une action forte, nous en tant que collectivité publique, parce qu'on est convaincus qu'aujourd'hui, les acteurs publics ont un rôle essentiel à jouer, notamment sur l'expérimentation aussi, et puis sur l'essaimage. C'est-à-dire que on fait effectivement des projets, alors on tâtonne, hein, on est, c'est pas toujours super facile ni pertinent, mais on a des retours d'expérience et aussi on peut de fait partager avec les professionnels autour de nous. Et c'est aussi un axe fort de ce projet, c'est la gouvernance, donc qu'on a voulu la plus large possible et qui a été possible d'une part avec effectivement la démarche BDM, puisque comme vous le disiez, on a obtenu le label OR. Du coup, on s'est inscrit dans toutes les parties de cette démarche et ça a permis aussi de pouvoir faire des réunions qui sont appelées des chantiers par et pour les pros, où on a convié effectivement les artisans locaux de cette zone d'activité, mais d'une manière plus large du pays d'Arles, pour pouvoir se former sur ces nouvelles pratiques, à savoir les matériaux biosourcés, comment on les met en œuvre, qu'est-ce que c'est en fait déjà un matériau biosourcé, qu'est-ce que ça apporte en termes de performance sur le bâtiment, parce que là, on parle bien de confort aussi climatique, de réduction des énergies, donc en termes d'isolation, etc. Et qu'est-ce que ça apporte aussi aux riziculteurs? Et notamment, le riziculteur était présent lors de ces journées, donc c'était très intéressant de pouvoir discuter. Et on a mis en pratique, c'est-à-dire que, pour juste vous préciser comment a été utilisée cette balle de riz, en fait, on a créé un plancher dans ce bâtiment qui était un bâtiment existant, qui était un hangar en fait métallique, hein, donc pas du tout sur du tertiaire. On a créé tout un niveau de plancher en bois avec des caissons qui ont pu être remplis avec cette balle de riz qui permet d'isoler très, très bien, surtout qu'au niveau du premier étage, on a tous les bureaux et au rez-de-chaussée, on a le hangar, le matériel, les services techniques. Donc c'était important aussi d'isoler au niveau acoustique. Hein.
Oui, bien sûr. Alors, je vais vous interrompre parce que le temps passe terriblement vite et je voudrais faire aussi un dernier tour de table. C'est très compliqué, cette séquence, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'exemples. Donc, on va en arriver à un dernier tour de table. Peut-être juste vous, de votre côté, puis je vais passer la parole aux autres intervenants. On a cet exemple. Vous voulez dire aussi que dans la région, il y a beaucoup de communes qui agissent, que vous pouvez prendre l'exemple aussi sur ces communes et ces exemples. Chacun des réponses de 30 secondes. Hein, je vais vous le dire tout de suite. Allez-y. Allez-y déjà, Corinne Gattini.
En fait, ce que je disais, c'était que surtout à travers BDM, ça nous a permis, nous, d'être en relation avec d'autres acteurs publics, d'autres porteurs de projets, qui travaillent tous dans le même sens, hein, et du coup, de pouvoir échanger sur les bonnes et puis les moins bonnes pratiques ou les mauvaises surprises. Et il y en a quand même eu hein, au cours de ce chantier.
Comme dans tous les chantiers, oui.
Donc, comme dans tous les chantiers. Mais c'est vrai que on a pu, en faire des retours d'expérience, échanger, trouver des solutions pour des personnes qui auraient trouvé les mêmes problèmes. Mais je voudrais mettre l'accent aussi, ça a été dit par la dame qui était juste avant moi.
Elisabeth Letessier, oui, des architectes.
Madame Letessier, des architectes et des équipes accompagnantes et de l'assistant en maîtrise d'ouvrage aussi, parce que ce sont des projets avec une ingénierie, une technicité quand même très poussée. Et on n'a pas toujours cette ingénierie en interne, d'autant quand on est dans des petites structures comme la nôtre. Et donc, le rôle de l'AMO et de l'architecte, il est essentiel. Et je voulais vraiment remercier les équipes qui ont travaillé avec nous et qui nous ont permis de sortir un projet qui maintenant a 2 ans de vie, donc on est installé depuis 2 ans.
Alors je vais faire réagir Elisabeth Tessier, je vais faire réagir Elisabeth Le Tessier à ce que vous venez de dire. Merci beaucoup, je vous interromps, mais je vois le temps qui file et nous avons d'autres séquences. Elisabeth Le Tessier, un mot à ajouter?
Juste, je crois que c'est Patrick Sauvage, l'architecte qui a réalisé avec vous ce projet des Alpies.
Parce que vous n'avez Est-ce que c'est Patrick Sauvage, l'architecte? Corinne Gattini, je crois qu'elle ne nous entend plus. Oui. Si, c'est lui. C'est lui.
Voilà. Bien, M. Sauvage. De même,
voilà. Et de même, comment s'appelle-t-elle, notre amie Claude Bertolino, le projet sur Toulon, c'était donc l'architecte.
Claude Bertolino, l'architecte, ça y est, c'est des questions.
Je n'entends pas.
Voilà,
c'est ça. Voilà. Donc, je trouve que bon, c'est tout. C'est bien quand même de citer tout le monde parce que c'est les projets qu'on réalise en développement durable, mais même en temps normal, quand on ne peut pas accéder parce qu'il y a des prestations qui coûtent quand même un peu plus cher, qui des fois sont compliquées, les maîtres d'ouvrage sont réticents. Et c'est formidable de voir ce maître d'ouvrage là tout de suite qui est comme celui qu'on a eu pour l'éco-campus Provence, Durance, Luberon, Verdon, agglomération, qui ont pris le risque. Parce que pour eux, c'est quand même moins confortable. Vous voyez, on fait des expérimentations. Il y a quand même des choses, la paille de riz, voilà, c'est pas tous les jours la paille de riz. Alors nous, juste pour finir, sur l'éco-campus Provence, on a utilisé pareil pour développer aider les entreprises locales ou développer des filières locales. On a fait appel pour toute l'isolation à la laine au biofibre, c'est-à-dire à la laine de chanvre. Voilà. Et ça permet effectivement d'accompagner aussi les entreprises locales de développer la formation. Donc, c'est bien d'avoir une vue plus large que le bâtiment lui-même, bien sûr, ou que l'opération elle-même.
Voilà. Merci à vous. Claude Bertolino, un mot.
Très rapidement, moi, je pense que ce qui est vraiment important à dire sur notre territoire, c'est qu'effectivement, BDM, qui existe depuis maintenant une quinzaine d'années, a permis de générer un écosystème d'acteurs, que ce soit des maîtres d'œuvre, architectes, bureaux d'études, spécialistes divers et variés, et que du coup tout ça, avec des retours d'expérience, des valorisations, d'un travail coopératif, fait que du coup l'ensemble du territoire, par rapport à ces sujets qui sont pas simples et sur lesquels on tâtonne, nous sommes dans des transitions en marchant, amène à ce que toutes les chaînes de composants de l'acte de construire et de l'acte de rénover en rénovation énergétique aillent dans un sens vertueux, innovant et de mise en œuvre le plus généralisé qui soit.
Alors, le mot de la fin pour Frédéric Corset.
Bon, c'est parfait parce que tout le monde a parlé d'EnviroBat BDM sauf moi. BDM sauf moi. Juste, alors, du coup, je dis juste une chose, voilà, que nous, on porte, en fait, l'association, un colloque annuel qui s'appelle Bâti frais, qui a lieu chaque année, sauf l'année dernière, évidemment, avec le Covid, et qui s'intéresse plus particulièrement aux questions de confort d'été. Il y a une quinzaine d'ateliers dans la journée, des conférences. Et ça se trouve dans un lieu magnifique, la Galinière près d'Aix, au milieu des vignes et de la campagne, et des pins. Et ça a lieu le 24 septembre. Et cette année, c'est ESPI, évidemment, sur la question de rénovation, donc parfaitement dans le thème de l'atelier. L'année prochaine, ça sera sur la question du low-tech et du soft-tech. Voilà un petit peu, voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Alors, j'avais une question. Alors, ça peut être vous ou un autre intervenant, parce qu'on a aussi des questions venant du public qui nous suit. La mise en place des nouveaux DPE est plus longue que prévu, faute de visibilité. Avez-vous un avis éclairé sur ces nouveaux DPE? Est-ce que l'un d'entre vous veut réagir à cette question? Non?
Ça. Déjà, les DPE, moi, je ne sais pas ce que c'est les DPE.
Diagnostic de performance énergétique, si je ne m'abuse.
Ah, d'accord.
C'est
d'accord.
Ça. Ben, peut-être qu'aucun d'entre vous n'a de réponse. Hein. C'est pas grave, je la suggère.
Oui, ce sont peut-être plutôt les bureaux d'études fluides qui auraient la réponse. Oui.
Voilà.
Peut-être qu'il faut dire quand même, c'est que ces DPE, en fait, ils ont été remis en cause et ils devraient être plus complets qu'autrefois. Ils vont s'imposer aussi comme un élément qui pourra s'imposer lors d'une vente ou lors de travaux. Et surtout, il a été fait en concertation, ce qui est chose un peu inhabituelle pour l'État. Et l'État a impliqué beaucoup les professionnels dans ce DPE. Alors, évidemment, il y a eu des choix qui ont été faits et qui ne satisfont pas tout le monde. Mais cette implication, évidemment, ça a du temps. Ça prend du temps. Et voilà, derrière moi, il y a l'intelligence collective. Donc, c'est vrai qu'à plusieurs, on va plus loin. Enfin, tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Voilà, mais ça prend plus de temps.
Merci à vous, Frédéric Corset, donc directeur EnviroBat BDM, d'être intervenu. Claude Bertolino, directrice générale de l'État l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, Elisabeth Tessier, associée gérante de l'ETC Coriol, et Corinne Guintini, directrice de l'aménagement et du développement durable de la communauté de communes Vallée des Beaux-Alpilles. Alors, je vous ai un petit peu pressé, mais c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup d'exemples. C'est très, très dense parce qu'on veut montrer concrètement ce que fait un territoire, mais je pense quand même en 45 minutes qu'on a pu faire un beau tour d'horizon. Merci à vous. On va marquer une pause ou même on va enchaîner en continuant avec le fameux décryptage RE2020 et il va être question justement de confort d'été.
Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, la rénovation énergétique dans les territoires, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.